Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à notre émission Regard sur le monde sur Canal M. Diane Felice, Michel Poulin en votre compagnie pour cette édition. Nous recevons professeur émérite et chercheur à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, M. Walter Wittich, et nous recevons deux athlètes également, Benoît Lucier et Mathieu Daigle. Une autre émission, Diane, aujourd'hui, où on aura des invités de marque avec des sujets de grand intérêt. Et pour moi, c'est un grand bonheur de recevoir notre premier invité, le professeur Walter Wittich.
Oui, M. Wittich, un parcours professionnel très, très impressionnant. Bonjour, M. Wittich.
Bonjour, merci pour m'inviter. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui.
Vous avez un post-doctorat en neurosciences. Est-ce que c'est bien ça?
J'ai fait un doctorat en neurosciences à l'époque, oui, c'est ça.
À l'époque. Parlez-nous de votre cheminement professionnel qui est pas banal.
Ouais, c'est normalement, quand les gens me demandent des questions sur le déroulement de ma carrière, ils pensent de ma carrière académique, mais c'est déjà ma deuxième carrière. J'ai commencé originalement comme danseur classique, danseur de ballet. Et la fin de ma carrière s'est déroulée à Montréal. J'ai dansé avec Ballet Jazz de Montréal pour quelques années. Et après, j'ai décidé de recommencer ma vie dans un autre domaine. Et j'ai décidé de retourner à l'école.
Ah. Et pourquoi vous avez choisi le domaine de l'optométrie, en fait? C'est votre grand secteur?
Pour être complètement honnête, c'est un peu par hasard au début. C'était pas le plan initial. Au début, je pense, parce que c'est une deuxième carrière, on a déjà fait la retraite d'une carrière. J'ai eu peur, je pense, c'est tout le monde qui,
oui, c'est
qui a peur de qu'est-ce qui se passe maintenant. Est-ce que j'ai besoin de relancer tout ça, où ça va? Et j'ai eu des plans très petits, comme devenir interprète ou traducteur ou quelque chose comme ça. Mais finalement, j'ai rencontré une professeure à l'Université de Concordia, Olga Overbury, qui travaille en déficience visuelle. Et on a décidé de travailler ensemble pour mon premier petit projet de recherche de premier cycle et je suis tombé en amour avec le domaine. À l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité son labo à l'hôpital juif et j'ai observé un examen initial en basse vision. Et la chose que j'ai trouvée fascinante, c'était un client de l'âge de 96 ans.
96
avec ses deux filles, une de 65, une autre de 70. Et j'ai observé l'examen. J'ai réalisé la dynamique. Une des filles a compté toutes les erreurs et l'autre était excitée pour toutes les choses la mère a réussi à faire. Et cette dynamique entre les trois, j'ai trouvé fascinant et j'ai décidé, waouh, c'est ça que j'ai besoin à comprendre. Comment ça fonctionne, comment une déficience visuelle peut changer la vie et une famille dans ce cas-là, et comment améliorer leur façon de vivre et leur qualité de vie.
Donc, vous avez été le premier certifié au Québec comme thérapeute en basse vision.
C'est ça. On a une organisation dans les États-Unis présentement qui donne des certifications dans le domaine de basse vision. Malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés au point de donner l'examen en français, mais on a des négociations de développer ça aussi. Présentement, c'est seulement possible de faire ce certificat en anglais.
C'est quoi les priorités que vous avez actuellement? On va passer du côté de la recherche. Dans l'entrevue qu'on a faite pré-enregistrement, si vous voulez, on parlait d'une cinquantaine de recherches que vous avez devant vous. Mm-hmm. Quelles sont les priorités actuellement?
Dans le début de développement de ma carrière, c'était vraiment concentré sur la déficience visuelle seulement, l'utilisation des aides techniques, l'ajustement à la nouvelle réalité de vie pour des interventions et des stratégies pour améliorer la vie. Mais éventuellement, j'ai aussi réalisé que la déficience visuelle ne vit pas toute seule. On a des cas plus complexes. Les personnes âgées ont plus qu'un problème. Et j'ai passé une partie de mes études pendant mon postdoctorat en audiologie. Et c'est à cause de ça, maintenant, une de mes grandes priorités, c'est de comment développer un programme de réadaptation pour les personnes âgées où on a une déficience visuelle acquise et une déficience auditive acquise. Parce que c'est deux des problèmes les plus prévalents, si vous voulez, chez les personnes âgées.
Vous voulez me donner des exemples de recherches que vous menez avec vos étudiants, par exemple?
Un problème qu'on a récemment publié, il y a 2 semaines, c'est l'utilisation du iPad comme un outil d'agrandissement pour la lecture. Et on était curieux parce que les iPhones, les iPads, toutes les technologies avec un écran tactile sont utilisées partout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas stigmatisés. Et les gens sont plus à l'aise d'utiliser comme ça, un truc comme ça en public parce que ça a l'air qu'ils utilisent les mêmes technologies que tout le reste du monde. Mais est-ce qu'on a des données pour déterminer si c'est assez efficace, par exemple? Donc, on a décidé d'évaluer une comparaison de iPad avec des aides qui existent présentement au centre de réadaptation et, c'est la bonne nouvelle, leur performance était à peu près égale. So, c'est juste une question de préférence de l'utilisateur. S'ils préfèrent d'utiliser l'iPad, probablement leur performance est égale avec ce type de technologie.
Vous avez également fait des recherches avec des lunettes, je crois.
On a une compagnie en Ottawa, ça s'appelle eSight, et eSight a développé un type des lunettes électroniques qui facilitent l'agrandissement et le changement de contraste pour améliorer la vision. C'est un peu comme une télévisionneuse portable pour les gens qui savent comment ça fonctionne avec une aide traditionnelle. Sauf maintenant, c'est à main libre parce qu'on porte les lunettes directement sur la tête et on peut utiliser ça facilement à plusieurs distances. Par exemple, c'est idéal pour les étudiants qui ont besoin de changer focus sur quelque chose à distance, le professeur mettre quelque chose sur le tableau et maintenant changer pour regarder quelque chose proche dans leurs notes. Le truc eSight, par exemple, peut facilement changer le focus et d'ajuster l'agrandissement au besoin.
En préparant l'émission tout à l'heure, vous nous avez fait une différence entre l'optométrie et l'ophtalmologie. Donc, ce sont des champs de recherche complètement différents.
On travaille ensemble, mais on a des priorités différentes, si vous voulez. C'est aussi la formation est différente. Ophtalmologie, c'est des médecins. Leur focus, leur priorité, c'est le traitement d'une maladie, le traitement physique, les chirurgies, les interventions avec des médicaments. Et l'optométrie, souvent, est plus basée sur la fonctionnalité de l'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que vous avez des capacités d'agrandir, de voir le contraste? La formation est un peu différente aussi. Et c'est réfléchi aussi dans le type de recherche qu'on fait. So, par exemple, si vous avez des questions de quelles sont nos priorités en déficience visuelle au niveau de la recherche, les priorités en ophtalmologie sont souvent concentrées sur les médicaments, les interventions et les chirurgies. Versus en réadaptation, on s'intéresse de stratégies et des approches et des aides techniques pour améliorer la fonctionnalité de la personne.
Donc, quand on parle, entre autres, parce que c'est ce qui est le plus connu, la dégénérescence maculaire, vos recherches, ou enfin, touchent la réhabilitation et non le curatif.
Exactement, c'est ça.
On va faire une petite pause musicale et on est de retour avec notre invité tout de suite après.
Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. sans l'autre. Désormais, nous changerons nos habitudes. Et ces mots que je croyais l'autre, tu les diras dans d'autres bras. Désormais, je garderai ma porte close. Désormais, enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. Jamais plus nous ne mordrons aux mêmes fruits, ne dormirons aux mêmes lits, ne referons les mêmes gestes.
C'est l'émission Regard sur le monde sur Canal M. On est en compagnie du professeur, Dr. Wittich, Diane.
Oui, très, très impliqué au niveau de la recherche. Il y a d'ailleurs une implication, j'imagine, internationale. Donc, au niveau mondial, il y a des recherches sur la déficience visuelle liée au vieillissement. Où est-ce que le Québec se situe dans ce map monde?
C'est une bonne question et c'est pas facile à répondre, mais je peux commencer avec l'image canadienne, si vous voulez. On a une situation très particulière au Québec parce que c'était la première province où la santé, réadaptation, déficience visuelle était vraiment intégrée dans les services couverts par les dépenses des ministères de santé. Ailleurs au Canada, ça c'est relativement nouveau. Et ça veut dire que le niveau de services disponibles au Québec est complètement supérieur qu'ailleurs au Canada. Le seul autre lieu en Amérique du Nord où on a un niveau de services comparable, c'est dans le Veterans Affairs, dans les États-Unis, aux militaires. Parce que pour eux aussi, tous les outils, les services sont couverts par leur service à l'intérieur du militaire, mais seulement pour les soldats et leurs familles. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, on a besoin de regarder qu'est-ce qui se passe dans les pays nordiques, en Europe, parce que c'est la deuxième place au monde où, dans un système santé sociale, on a des services et des outils qui sont couverts et payés par le gouvernement, par exemple. Mais ailleurs, au monde, c'est relativement rare d'avoir le même niveau d'accès et support qu'on a ici. On vit vraiment un type de rêve. Comme chercheur, surtout, je suis capable de faire des choses ici. Je ne peux pas faire, je peux pas faire ailleurs.
En termes de recherche comparative, qu'est-ce qui se fait sur la planète?
C'est
une grande question.
Une petite mini-question. je pense que chaque pays a leur priorité un peu différente. Une des questions qui est relativement pertinent partout maintenant, c'est comment livrer les services dans une façon fiscalement faisable. Souvent, c'est des questions de quels services sont des meilleurs pour le prix plus bas, mais avec le plus grand effet pour le client. C'est pas différent ici aussi, on fait ce type de recherche au Québec aussi. Le développement de technologies, par exemple, en Asie, je trouve très intéressant parce que plusieurs de nos aides, des loupes par exemple, sont produites à l'Inde ou en Chine. Ça veut dire que le prix pour ce type d'aide est beaucoup plus bas qu'ici. Quelque chose ici, on paye 40 $, ça coûte 20 cents là-bas. Faire une intervention et donner des aides à quelqu'un en Asie est beaucoup moins cher. Le prix, c'est la distribution de transport des choses de la place où c'est produit jusqu'aux utilisateurs. C'est aussi une grande partie des prix qu'on paye ici quand les trucs arrivent à l'Amérique du Nord. So, des priorités sont souvent décidées par la situation locale.
Vous êtes quand même, c'est un univers très petit. J'imagine que vous vous connaissez tous à quelque part. Est-ce qu'il vous arrive de faire des recherches en collaboration avec d'autres pays sur un même sujet ou est-ce que vous pouvez bénéficier des données d'un et l'autre?
Le domaine de la déficience visuelle est relativement petit et aussi on a les mêmes problèmes partout au niveau des financements, par exemple. Ça veut dire qu'une des solutions pour augmenter notre effet, c'est de collaborer et de diviser un peu les tâches. On a quelqu'un en Europe qui travaille sur un certain aspect d'un problème d'agrandissement optique, peut-être, et leurs résultats sont impliqués et utilisés dans un projet qui se déroule à Toronto. Après, on va l'essayer à Montréal si ça fonctionne avec des clients, parce que j'ai accès à libre aux clients pour l'essayer et personne n'a besoin de travailler en isolation.
Comment cette collaboration, elle est entretenue parce que vous êtes multisite? J'imagine qu'il y a des congrès ou est-ce que vous avez l'occasion de vous rencontrer?
On a des réunions à peu près une, deux fois par année. Ça dépend un peu aussi de mon budget de voyage, parce qu'en théorie, je peux voyager chaque semaine quelque part, mais je suis sûr que l'université va avoir des problèmes avec. La limite, souvent, c'est l'argent, mais on essaie de aussi partager nos connaissances par publication. Si on n'a pas l'opportunité de se rencontrer, on va publier nos résultats, tout le monde peut les lire sur le web.
J'imagine que vous utilisez la technologie aussi pour communiquer plus aisément entre vous.
Oui, on a des réunions électroniques souvent, on a plusieurs des logiciels qui sont basés sur le web pour organiser des réunions en groupe. Ça a changé vraiment la façon de collaborer. Présentement, je suis parti d'une équipe canadienne, on a des membres de... au travers de tout le pays, au travers de quatre zones de temps, et on a des réunions qui se déroulent chaque lundi après-midi pour s'organiser qui fait quoi, comment. Ça a changé vraiment la façon de travailler.
Vous avez certainement remarqué des retombées également plus rapides ou plus complets.
C'est plus facile de faire le transfert de connaissances parce que maintenant, si on a un développement d'une nouvelle façon qui a démontré un effet, je peux immédiatement communiquer avec mes équipes ailleurs. Ils peuvent l'essayer, introduire à leurs cliniciens et on peut changer le comportement clinique plus vite.
Parlant de transfert de connaissances, est-ce qu'il y a une belle relève au niveau de la recherche dans votre domaine?
La réponse courte, on cherche toujours. Je pense, moi, je vais être beaucoup plus heureux si j'ai me doublé plusieurs fois pour assurer qu'en 30 ans, ça va être porté appropriatement. Je pense surtout le grand calcul, c'est la vague des baby boomers, parce que les besoins vont augmenter. Et ça veut dire qu'on a besoin aussi d'augmenter nos ressources, et ça inclut des chercheurs. Donc, si vous êtes là quelque part, vous avez des intérêts, trouvez-nous parce qu'on va parler.
Qu'est-ce qui vous motive à tous les jours? Ça fait 18 ans que vous êtes dans ce milieu-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui motive Walter Wittich à tous les jours à travailler dans sa recherche sur la déficience visuelle reliée au vieillissement?
Surtout quand on vient du domaine de la danse.
Oui.
Mm-hmm. Ouais, je pense là, on a comme un mini éventail des motivations parce que c'est pas juste qu'une chose. J'adore travailler avec mes étudiants. Ils sont vraiment excités par leur avenir, par leur découverte. J'ai un groupe de collaborateurs et des collègues qui sont extraordinaires, qui sont très, très talentueux. Mais surtout, passer du temps avec nos clients et nos participants et de voir directement l'impact de notre travail sur leur fonctionnalité, c'est probablement la partie la plus importante parce que je peux voir immédiatement l'effet de nos recherches sur leur visage quand ils sont capables de faire quelque chose. Il y a 3 heures, c'était pas possible. Ça, c'est probablement le grand motivateur central.
Quels sont les plus grands défis qui vous attendent?
C'est probablement pas surprenant que c'est l'argent et le temps. Si dans un monde idéal, si vous voulez, les jours ont à peu près 29 heures et on passe beaucoup de temps en recherche de demander l'argent, d'écrire des demandes de fonds, de justifier pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et ça absorbe beaucoup d'énergie. Ça, c'est définitivement un défi très grand. Je ne suis pas toute seule avec ce défi-là, mais c'est important de justifier pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait, mais parfois je suis fatigué.
Vous avez reçu récemment un prix dans le cadre d'un congrès. Quel est ce prix que vous avez reçu?
On a une compagnie, une conférence dans les États-Unis, ça s'appelle Envision. Et Envision a décidé de donner un prix chaque année pour un chercheur au milieu ou fin carrière pour apprécier l'impact de leur type de recherche. Et cette année, j'étais très honoré de recevoir ce prix, surtout pour mes recherches en surdicité et déficience visuelle. C'était très excitant parce que je suis seulement le deuxième Canadien de recevoir ce prix. Et ça me donne aussi un moment d'approbation externe, si vous voulez, que je suis sur la bonne route. Voilà.
Votre plus grand rêve?
Je pense, pour faciliter ma vie et pour être complètement centré sur moi, si on trouve quelqu'un qui décide de subventionner un chaire de recherche à l'Université de Montréal en déficience visuelle, spécifiquement, ça va changer la pression de productivité parce que présentement, on travaille sur les deux côtés. On cherche l'argent et on va produire la recherche en même temps. Si cette côté de pression de chercher l'argent est réduite, je suis sûr que le même moment, la productivité de recherche va augmenter. Et d'avoir un chaire qui est dédié à ce type de recherche va aussi valoriser le besoin de la déficience visuelle comme une idée centrale dans le contexte de vieillissement. Je ne suis pas toujours sûr que la public en général comprend l'impact et l'importance de s'occuper de la personne âgée avec une déficience visuelle. Et nous, en recherche, on essaie de vraiment changer leur vie et leur avenir.
Dr. Walter Wittich, professeur, chercheur à l'Université de Montréal, merci infiniment d'être venu à notre micro et on va sûrement vous réinviter pour en connaître un peu plus sur vos recherches. Merci infiniment d'être venu.
Merci.
Alors, c'est maintenant notre bloc actualité sur la déficience visuelle. Il y a M. Philippe Schnob qui est président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, la STM, qui a souligné tout dernièrement l'implantation d'Extra Connect qui permet de débuter graduellement la livraison du service en temps réel au transport adapté avec la nouvelle salle de contrôle. L'implantation d'Extra Connect, qui nécessite un investissement total de 24 millions de dollars, contribuera significativement, j'ai toujours de la misère avec ce mot-là, mais je vais y arriver, à l'amélioration de l'expérience client, tout en assurant la pérennité de ce service en croissance. La STM complétera en 2019 l'implantation de ce projet de système de gestion des déplacements en temps réel, en branchant non seulement les minibus, mais également le parc des fournisseurs de taxis. En termes, cet outil permettra d'informer la clientèle de l'arrivée imminente du véhicule, de même qu'optimiser davantage l'utilisation des ressources financières et véhiculaires. La gestion en temps réel est déjà disponible pour l'ensemble des minibus de la STM et des taxis de Taxi Coop de l'Est. Plus de la moitié du parc de taxis qui effectue ces déplacements le seront également d'ici la fin de 2018. De plus, la mise en opération de la nouvelle salle de contrôle assurera une meilleure efficacité dans la livraison du service en offrant une meilleure ponctualité et une information plus juste. Enfin, les appels d'arrivée imminente aux clients quelques minutes avant l'arrivée du transport seront également disponibles à la fin de 2019. D'autres nouvelles, l'équipe de Cavalia était l'hôte d'une visite particulière coordonnée par la Fondation des aveugles du Québec d'un groupe d'enfants malvoyants au Grand Chapiteau Blanc d'Odysseo. Les jeunes ont découvert l'univers équestre et acrobatique d'Odysseo, sans oublier qu'ils ont touché et brossé des chevaux. L'assistante vétérinaire Isabelle Verrier a enseigné l'art d'écouter les battements de cœur et la respiration du cheval avec un stéthoscope à des jeunes. Alors, voir la vie autrement, c'est le thème de la Fondation des aveugles du Québec qui a participé à cette activité avec Cavalia. Alors, ces enfants malvoyants qui comptent sur tous les autres sens pour saisir le monde ont été guidés par des artistes d'Odysseo à travers un parcours sensoriel créé spécifiquement pour eux. Pour les amateurs de sport, les Orioles de Baltimore vont devenir la première équipe des ligues majeures de baseball à porter un uniforme dont les noms des joueurs seront inscrits en braille à l'occasion de la soirée de la Fédération nationale des aveugles. Et Diane, en France, ça c'est assez particulier, le métro de Rennes diffuse des fragrances sur les quais et dans les wagons. Alors pour chaque direction, une odeur spécifique a été attribuée. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir qu'on ne peut pas sentir. Alors, partant de cette prémisse, le métro de Rennes en France a décidé d'expérimenter un système de signalétique olfactive pour guider les non-voyants. Depuis avril, un diffuseur de fragrances a été installé sur les quais de la station Sainte-Anne, située au centre de la petite ville bretonne. Pour chaque direction, une odeur spécifique. Parfum d'iode pour les passagers se dirigeant vers la station Poterie, parfum de menthe poivrée pour ceux qui se rendent à une autre station. On a vérifié avec le métro de Montréal et semble-t-il que ça ne peut pas fonctionner pour tout de suite compte tenu des vents et de la circulation d'air qu'il y a dans les bouches de métro. Alors ce n'est pas demain la veille que nous aurons des fragrances dans le métro de Montréal. On prend une pause et on est de retour tout de suite après notre émission « Regard sur le monde ».
Inanimé. besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes dans le corps de ton esprit, ton visage à l'envers, tout petit, si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne.
Alors, nous recevons deux athlètes de l'équipe canadienne paralympique qui s'entraînent actuellement. Ils sont d'ailleurs sur leur lieu d'entraînement, Diane. Ils s'entraînent pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Il s'agit de Mathieu Daigle et Benoît Lucier. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Et je vais m'adresser à Mathieu au départ tout de suite. Vous faites du vélo en tandem. Mathieu souffre d'une déficience visuelle. Quelle est la déficience visuelle? Quelle est la pathologie, Mathieu?
Moi, j'ai une rétinite pigmentaire qui fait en sorte qu'à noirceur, j'ai de la misère à voir les petits détails de proche et aussi de loin à la clarté.
Benoît, je vais m'adresser à Benoît maintenant. Comment êtes-vous venu à faire équipe avec Mathieu? Parce que je comprends que vous faites du vélo ensemble, là. Vous êtes une équipe ensemble.
Oui, c'est ça. On s'entraîne plusieurs fois par semaine ensemble. On en est venu à ça, là, mais au départ, moi, j'ai communiqué avec le coach de l'équipe nationale, qui, lui, il m'a dit, OK, oui, c'est vrai, tu pourrais piloter un non-voyant, mais présentement, on n'en a pas. On va commencer à t'entraîner. Puis quand il y aura quelqu'un disponible, là, on verra pour faire une équipe. Puis en 2016, il m'a parlé de Mathieu, puis là, on a commencé à s'entraîner ensemble comme ça.
OK. D'abord, c'était votre aspiration d'être en tandem avec quelqu'un qui avait une déficience visuelle.
Exactement. J'avais pas pensé de viser les Jeux paralympiques un jour. J'avais parlé au coach que j'étais disponible pour faire quelques courses par année, mais avec Mathieu, on s'entend vraiment très bien. La communication est bonne sur le vélo, l'entente est bonne sur le vélo, et on est devenu performant très rapidement. Fait qu'on a ajusté les objectifs.
Alors, ma question maintenant est pour Mathieu. Mathieu, comment on arrive à monter à vélo avec une personne qui est voyante, en tandem? J'imagine que vous êtes assis en arrière.
Oui, exactement.
Ouais, comment ça se passe pour vous?
C'est sûr qu'il faut que tu fasses entièrement confiance à la personne d'en avant. Puis c'est lui qui pilote le vélo, puis tu le laisses piloter le vélo en tant que tel, puis tu fais juste suivre le vélo, puis tu suis son coup de pédale et tu suis aussi ses indications.
Qu'est-ce que c'est vos repères? Comment vous faites pour le suivre, au fond? C'est par le mouvement?
Bien, je sens avec le coup de pédale, quand, mettons, qu'il arrête de pédaler ou, mettons, qu'il break, je le sens tout de suite. Ou, mettons, qu'il y a une accélération, je sens qu'il y a plus de pouvoir dans les pédales. Ou quand on pousse debout, il me dit « on se lève debout ». Puis quand on fait une accélération, il pogne le bras pour faire une accélération, pour dire que c'est une accélération.
OK, fait que vous êtes développé un langage.
Oui, exactement. C'est de développer des signes pour être plus meilleur dans la communication.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des aventures cocasses que vous pouvez nous raconter dans vos expériences?
Moi, j'en ai une.
Oui.
Une intéressante, on est en Espagne en 2016, c'est notre première Coupe du monde ensemble. On arrive là, on se dit « crime, on n'est même pas sur l'équipe nationale encore, on est indépendant qu'on appelle, on s'organise avec tout. » Fait que là, on a le transport avec l'organisation. On est en retard, puis de beaucoup. Là, on se perd en chemin avec l'organisation. On comprend du tout le langage basque. Fait que là, on n'a pas trop le choix, là, tu sais, on suit. On arrive là 15 minutes avant notre course. Normalement, on se réchauffe pendant une heure environ avant. Mathieu, le stress a monté en flèche.
Ouais, je me possédais plus.
Fait que, malgré tout, on a quand même réussi à faire un top 8 en Coupe du Monde, à notre première Coupe du Monde, malgré le stress qui était là. On a eu beaucoup de plaisir dans cette course-là, malgré qu'on ne contrôlait pas du tout ce qui se passait en préparation de notre course.
Non, exactement.
Quelle est parce que là, vous avez fait plusieurs courses à travers la planète. Et là, maintenant, vous faites partie, ça c'est assez récent, que vous faites partie de l'équipe canadienne paralympique.
Exactement.
Et, oui, ça fait depuis 2018.
Cette année, vous faites maintenant partie. Et quelle est la préparation? Parce que là, on parle des Jeux paralympiques de Tokyo, c'est 2020?
Oui.
Et quelle est la préparation que vous devez faire? C'est quand même important, les Jeux paralympiques de Tokyo, là, c'est quelque chose, c'est un gros morceau.
Oui, il y a beaucoup d'entraînement de musculation à faire, ou beaucoup d'entraînement de vélo qui fait en sorte que c'est beaucoup d'heures par semaine. Puis même des entraînements assez fréquents avec Benoît. Même si on reste chacun dans deux villes différentes, on essaie de trouver des moyens pour se rejoindre comme aussi ici au Centre national, qui est à mi-chemin, qui fait en sorte qu'on est capable de plus s'entraîner ensemble.
Quel est votre objectif pour les Jeux paralympiques? Bien sûr, tout le monde vise une médaille d'or, mais et ne serait-ce que de participer, c'est déjà beaucoup, mais est-ce que vous avez des objectifs précis pour les Jeux paralympiques?
Oui, ça serait de participer et être capable d'être médaillé aux Jeux paralympiques.
Moi, j'ai une question un petit peu technique pour Benoît. Benoît, est-ce que c'est les gens qui font du vélo seul, on a nos techniques et tout ça. Faire du vélo en tandem avec une personne en déficience visuelle, ça demande de l'adaptation, beaucoup d'adaptation sur la technique du vélo?
C'est quand même un autobus à conduire, on va dire. Puis c'est un peu comme faire de la moto avec quelqu'un à l'arrière. Il faut que la personne derrière suive la moto. Faut pas qu'elle veuille tourner en même temps que l'autre. Fait qu'il faut vraiment que je lui décrive l'effort le mieux possible. Je lui décris la course. Qu'est-ce qui se passe? On est-tu en train d'attaquer en ce moment? Ou les autres sont-ils en train d'attaquer? On arrive-tu dans la côte? Ça va faire mal? Faut anticiper beaucoup plus puis lui faire comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Techniquement parlant, Mathieu est très, très bon pour la technique, pour les virages, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le coup de pédale, comme il expliquait tantôt. C'est beaucoup dans la gestion de l'effort.
Pour être capable de savoir c'est quoi, combien de temps il faut choisir à haute intensité ou moins haute intensité et tout cela.
Et j'imagine qu'il n'y a pas un parcours qui est pareil.
Non. Il y a différents parcours puis c'est tout dépendant de la course en tant que telle. C'est différent aussi, différents parcours.
Alors, messieurs, on va faire une petite pause musicale et on est de retour tout de suite après avec vous.
Oh, fini.
Nous sommes toujours en compagnie de Benoît Lucier et Mathieu Daigle, qui sont deux athlètes de l'équipe canadienne paralympique qui s'entraînent actuellement pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
Benoît, ma question est pour vous. Qu'est-ce que, professionnellement, est-ce que vous avez un passé d'entraîneur ou...
Moi, je travaille dans le sport de haut niveau depuis maintenant 6 ans. J'ai entraîné dans d'autres sports auparavant. Puis là, je suis présentement scientifique du sport depuis début 2013 à l'Institut national du sport du Québec.
Et Mathieu, qu'est-ce que vous faisiez avant de faire les courses?
Je travaillais dans un centre de récupération. Puis j'avais une vie quotidienne, on pourrait dire, qui était plus un type sédentaire. Je faisais du vélo tout seul, mais avant que je commence le tandem, j'étais capable de rouler avec mon vélo tout seul. Mais quand j'ai commencé à faire du tandem, je n'étais plus capable de rouler tout seul, puis c'est ça qui m'a amené à faire de la compétition.
Donc, vous êtes passé de sédentaire à faire partie d'une équipe pour se préparer aux Olympiques. Et comment ça se passe, ce changement-là? Puis qu'est-ce qui vous a motivé, au fond?
Ça a été des changements drastiques dans ma vie de tous les jours. Mais ça a fait en sorte que j'ai une meilleure vie, puis j'ai des meilleures habitudes aussi de vie. Fait en sorte que je suis capable de contrôler tout ce qui veut être des problèmes de santé pour avoir une meilleure vie en de tous les jours.
Donc, tout est possible, Mathieu, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des problèmes de déficience visuelle et qui vous entendent, tout est possible.
Oui, exactement. Si tu veux, tout est possible.
Quel est l'entraînement que vous faites actuellement? C'est quoi votre programme d'entraînement que vous avez pour la préparation pour 2020?
Bien, c'est sûr que c'est beaucoup de vélo avec d'intensité. Puis il y a de la musculation aussi à travers. Il y a des entraînements derrière moto. Je fais des entraînements sur la piste. Je ne sais pas si Ben, tu peux en rajouter.
Ouais, disons qu'on a des standards à atteindre. On a des milestones sur la piste et sur la route avec des vitesses moyennes à atteindre au Canada. Et ensuite, on a des positions à atteindre au championnat du monde, en Coupe du monde, pour pouvoir faire des points et qualifier notre place pour Tokyo. Puis après ça, pouvoir aller performer, puis pouvoir, comment je pourrais dire ça, dans les mois avant les Jeux, on veut pas arriver juste, puis à toujours avoir à pousser pour qualifier notre spot. On aimerait le qualifier le plus d'avance possible pour vraiment se préparer pour les Jeux.
J'imagine que vous devez vivre parfois des moments de découragement, en même temps des moments d'euphorie. Comment vous faites pour passer à travers les moments plus difficiles?
C'est une très bonne question parce que la dynamique d'équipe, faut toujours communiquer le mieux possible, comme dans un couple. Moi, je vois ça exactement comme dans un couple sur le vélo. Si on accumule des frustrations, si on n'a pas les mêmes objectifs, la tension monte, puis en course, quand ça devient difficile, on n'est pas ensemble. Fait qu'il faut vraiment que tout sortir au fur et à mesure, la communication, il faut qu'elle soit excellente, malgré la pression qu'on vit au quotidien quand on approche des grosses courses.
Comment vous vous assurez de cette communication-là? Est-ce que vous avez des rituels de rencontre avant vos entraînements? Est-ce que vous avez des moments un peu plus informels? Comment ça se passe?
Je pourrais dire que si, mettons, qu'on a des moments plus stressants, mettons, avant les courses, donc quand même, on essaie de se communiquer tout de suite pour essayer de régler tout de suite le problème pour pas que la frustration monte davantage et ça puisse nous nuire en tant que course.
Moi, j'en ai un petit truc que je fais, si je peux me permettre.
Oui, allez-y.
J'essaie de pousser Mathieu parce que lui, il est un peu plus timide de nature. Puis moi, je suis le contraire. Je suis un peu plus... je rentre dedans, tu sais. Puis ce que je fais pour m'assurer que tout va bien, c'est que j'y monte la pression un peu. j'ai dit, OK, ben là, si on performe pas, là on n'ira pas au jeu. Hein. T'es conscient que là, si on performe pas, d'un matin, moi, j'arrête le tandem, tout ça, puis là... Oh, là, il sent la pression monter, puis là, ça sort. Peut-être pas très bien, mais ça sort, puis là, on peut en parler.
Exactement.
dans la dernière intervention, j'ai bien compris que vous avez encore plusieurs étapes avant de que vous soyez inscrit aux Olympiques.
Ah oui, ça, c'est sûr. Oui. Ça va se confirmer quelques mois avant seulement.
Et qu'est-ce qui vous attend en termes de course? Il y a des championnats mondiaux. Qu'est-ce qu'il y a exactement comme étape à franchir?
Bon, ben en premier, si je peux me permettre, Matt, on va tenter de se qualifier pour les championnats du monde de piste cet hiver. Plus on est versatile et on a de possibilités de performance dans l'équipe nationale, mieux c'est. Fait qu'on va essayer de faire les temps de la piste. Et après ça, on va faire les temps pour la route l'année prochaine. Puis chaque participation avec le positionnement le plus haut possible nous amène des points. Fait qu'on veut en faire le plus possible et performer à chacune des courses le mieux possible.
Ça vous demande un focus extraordinaire. C'est la chose qui vous préoccupe, j'imagine, à tous les jours.
Oui, exactement. L'entraînement fait partie exactement de notre quotidien. De la vie tous les jours, puis la vie est focussée en fonction de l'entraînement, comment ça fonctionne avec l'entraînement et tout ça là.
Dans les sprints importants à vélo, vous pouvez atteindre quelle vitesse en tandem?
Vas-y, Matt.
Je dirais peut-être aux alentours 65-70 km/h.
Sur le plat?
Sur le plat. Dans les descentes, ça peut être, je dirais, plus 90-100 km/h.
Vous pouvez atteindre 100 km/h en tandem.
Oui,
oui, exactement.
Il faut faire confiance à son coéquipier, Mathieu.
Oui, il faut être entièrement confiance à lui en avant. comme moi en arrière, je vois pas la route. Fait que faut être entièrement confiance à lui qui est en avant. Il va prendre la bonne trajectoire pour que ça aille le mieux possible.
Est-ce que vous êtes actuellement les seuls Québécois membres de l'équipe canadienne?
Il y en a d'autres je ne sais pas s'ils sont présentement cette année ou ils étaient là l'année passée.
Daniel Chalifour est non-voyant avec son pilote Jean-Michel Lachance.
Et eux...
Les autres Québécois qui sont en tandem.
D'accord. Le temps file très rapidement, puis j'ai une question qui me brûle les lèvres. Quelle a été... Oui. Vous avez réalisé plusieurs courses à travers les dernières années. Quelle a été la plus importante pour vous?
Celle qui a fait le changement drastique dans notre situation, ça a été la Coupe du monde en Hollande en 2017. On a terminé cinquième. C'est ça qui nous a permis de nous mettre sur la map, comme on dit. Ça nous a amené notre première participation au championnat du monde et notre qualification pour l'équipe nationale à temps plein.
Fantastique. C'est quoi les défis à venir pour vous deux? Les grands défis.
Les défis à venir, c'est les championnats du monde... de piste qui s'en viennent cet hiver. Après ça va être une qualification pour les standards pour la route et aussi une qualification pour les championnats du monde de route à l'automne 2019. Ouais.
Benoît, Lucier, Mathieu Daigle, merci beaucoup d'être venu à notre micro. On vous souhaite la meilleure des chances et nos
bon
auditeurs,
succès.
On va vous suivre très attentivement. Et d'ailleurs, les gens peuvent suivre Mathieu et Benoît parce qu'ils sont très près de la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Ils s'impliquent dans le défi caritatif Banque Scotia qui va se tenir le printemps prochain. Alors, on va vous suivre, messieurs, de façon... on va vous suivre en tandem, c'est le cas de le dire. Merci d'être venu à notre micro et à très bientôt.
Merci.
Bonne chance.
Merci à vous. Au revoir.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me when marimbas start to play. Hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me.
C'est déjà tout pour cette édition de Regards sur le monde sur Canal M. On vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.